À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Françoise Huguier, photographe éventuellement, mais très curieuse.
Cinquième épisode, quand la photo fait son cinéma. Bonsoir Françoise Huguier.
Bonsoir.
Alors vous avez une obsession, vous le dites vous-même, hein. Vous voulez raconter des histoires, en particulier raconter l'histoire des autres, et attraper la bonne lumière, surtout en intérieur. Hier, on a justement parlé de ces intérieurs. Ce soir, je voudrais qu'on parle des histoires et de la lumière. Histoire et lumière, ça fait photographie, mais ça fait aussi cinéma. Tout au long de cette semaine, vous nous avez montré comment le cinéma avait été votre influence principale, votre source d'inspiration principale. Alors j'aimerais qu'on revienne au début à vos amours de cinéma. Quels sont pour vous les grands réalisateurs, avant même parler des films qui vous ont accompagnés, mais les grands réalisateurs qui vous ont toujours suivi?
C'était Serge Gainsbourg dans le salon de musique, hein, parce que mon obsession, je vous l'ai dit, mon obsession c'est d'aller vraiment dans le palais où c'était tourné. J'ai réussi à convaincre Marie-Claire, quand je faisais des séries de mode, d'aller à Calcutta faire des séries de mode. Et donc j'ai fait avec le mannequin une photo dans le salon de musique d'un palais que m'avait indiqué Serge Gainsbourg. Et donc, souvent, j'avais proposé même à Géo de faire un sujet, puis ça n'a pas marché, qui était sur les lieux où il y a eu des tournages, par exemple aux États-Unis, sur les lieux des films de western ou pas de western, sur les lieux justement des tournages. Et ça, c'est passionnant. Je l'ai fait aussi pour Kurosawa. Quand il préparait Ran, il m'avait dit, dans l'île du Sud, il m'avait dit, tu sais, il y a un volcan, et là, je vais le tourner là. Donc, j'y étais, effectivement, pour essayer de faire des photos. Mais je ne suis pas aussi doué que Kurosawa et Serge Gainsbourg, mais bon. Mais ça a été mes grandes influences, ça, c'est sûr.
Il y a Tarkovski aussi, non?
Alors, on arrive à Tarkovski. Malheureusement, je n'ai pas photographié, il est mort avant que je photographie. Parce que moi, ces films, que ce soit le premier ou tous les autres, Nostalgia, ça, c'est des films que j'adore, la lumière, la mise en scène, les mouvements et tout. Et j'ai eu de la chance, pour la Sibérie polaire, il fallait rester un mois pour obtenir le visa pour tous les villages au-dessus du cercle polaire. Pour tous les villages. Donc, il fallait que j'aille au ministère de l'Intérieur avec mon interprète pour avoir la permission, qui m'ont servi à rien après, mais pour avoir la permission. Et donc, il se trouvait qu'il y a un cinéma où ils passaient tous les films de Tarkovski pour 5 euros. Donc, effectivement, j'ai passé mon temps dans ce film. Et pendant tout le voyage, il m'a influencé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Malheureusement, je ne l'ai pas connu, mais il m'a influencé tout le temps, quoi. Donc, j'ai demandé aussi pour Marie-Claire de faire une série de mode dans la région où Tarkovski a tourné André Rublev. Alors, effectivement, c'est extraordinaire parce qu'il y a plein d'églises, monastères, etc., des villages absolument incroyables. Et donc, j'étais faire une série de mode là. Donc, ça, même la mode, ça m'a influencé pour aller dans des endroits où le cinéma m'a influencé.
Mais d'autant qu'à l'époque où vous photographiez beaucoup la mode, Françoise Huguier, vous photographiez aussi beaucoup le monde du cinéma. Vous êtes allée dans tous les festivals au début, oui, des années 80, Cannes, Venise
oui.
Vous avez photographié beaucoup de réalisateurs, beaucoup d'acteurs.
J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai donc travaillé pour Libé, et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on m'a envoyé à Cannes souvent, à Venise, à Deauville. Donc effectivement, Scorsese, tous les grands réalisateurs, Imamura, tous les grands réalisateurs, et puis tous les grands comédiens aussi.
Et puis il y avait Serge Danet, votre
et
grand
puis,
ami.
Alors il y avait, on allait avec l'équipe, c'était Serge Danet et Gérard Lefort, et ça c'était formidable, parce que moi j'apprenais avec eux, j'apprenais tout, quoi. Vous savez, pour... il y a le tapis rouge, là, pour que tout le monde monte
à Cannes,
oui. Il y a les photographes qui sont sur les côtés, comme pour les défilés de mode. Donc, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Hein. Je crois qu'on était deux. Et puis, moi, j'arrivais à me faufiler, me mettre à genoux, comme ça, ou accroupi, pour pouvoir photographier aussi. Mais parce qu'on était bousculés, c'était comme pour
les... C'était comme pour la mode, finalement.
Exactement. C'est comme pour la mode.
Il y a un endroit où vous avez sans doute été tranquille, Françoise Huguier, c'est quand vous avez été photographe de plateau. Et vous l'avez beaucoup pété, notamment sur les films de Claire Denis.
Tout à fait. Ben, y a Nénette Ebony, là, j'ai vu qu'il est repassé. Nénette Ebony à Marseille. Et puis, Très belle et vraie day, qui était un film formidable aussi. Et là, j'ai appris énormément de choses. Parce qu'en plus... Vous savez, au début du cinéma, pour le photographe de plateau, on refaisait la scène. Après, comme les photographes avec des Leica, donc ça ne fait pas de bruit le Leica. Donc à ce moment-là, ils photographiaient pendant que les acteurs jouaient. Et moi, j'avais dit à Claire, moi j'ai un Nikon, ça fait du bruit. Donc il fallait demander aux acteurs. Donc j'ai demandé aux acteurs qui étaient dans les films de Claire. Et ils ont dit, bah, y a pas de problème, on refera la scène et tout. Et je me souviens d'une fois, c'était dans Très belle et vraie day, je crois. Claire, elle m'a dit, ah non, c'est pas possible, ils ont été meilleurs avec toi que moi. Alors, j'ai photographié aussi Catherine Deneuve. Et là, elle m'a fascinée parce que elle arrivait sur le plateau et elle disait, ah non, mais les lumières, ça va pas du tout. Elle disait à la chef op, elle disait, ah non, mais les lumières, là, ça va pas du tout. Ça, c'était extraordinaire. Extraordinaire.
Et elle a accepté que vous la preniez en photo ?
Ah ben, elle refaisait les scènes pour moi. Parce que ça, ça se fait plus du tout. Et alors, ces photos servaient souvent à la sortie des cinémas. Alors maintenant, il n'y a plus du tout ça, évidemment. On ne voit plus les photos.
Est-ce que vous diriez que vous vous êtes servi de votre appareil photo comme d'une caméra ? Est-ce que ça vous est arrivé, en tout cas ?
En Russie, oui. En Sibérie, oui. En Sibérie, oui. Parce que j'avais à chaque fois, j'avais des photos dans la tête... J'ai fait à chaque fois des scènes de Stalker. Il y a une photo, justement, où il y a un peu de boue et il y a un chien noir. Ben, c'est Stalker, hein, de Tarkovsky. Hein.
Puis parfois, c'est comme quand vous racontez sur vos séries, on voit bien que c'est aussi comme des séquences de cinéma.
Oui, de cinéma, oui.
Que vous réalisez de vue, en utilisant même parfois l'appareil photo sur pied, comme une caméra. Et que vous demandez à vos modèles de poser. Alors, c'est la question qu'on posait hier à la fin de l'émission. Sur la mise en scène. Mais qu'est-ce que la mise en scène en photographie pour vous ? Parce que la mise en scène, ça peut poser une question, ça peut faire débat. Certaines, d'ailleurs, photos, quand on dit « oui, elle est mise en scène », c'est la dévaloriser. Là, on ne parle pas de ça. On parle de la façon dont vous pouvez indiquer aux gens que vous voulez photographier comment se positionner. Mais tout est vrai. Enfin,
la couverture de Secrète, là, elle est de dos. Elle est sur une petite table qui était dans ma maison et en métal. Eh ben, je l'ai mis en scène, hein, évidemment, avec
Alors
la bonne lumière.
Ça veut dire quoi ? Vous lui avez dit, asseyez-vous comme ça ?
Voilà, c'est ça. Et souvent, la lumière aussi, c'était important pour qu'on voit bien son dos. Parce que la lumière, elle vient plutôt de la droite. Et puis à gauche, il y a une partie du dos qui est un peu sombre. Ça aussi, la mise en scène. C'est par rapport à la lumière qu'on a, parce que moi, j'avais pas des flashs, hein, là-bas. Donc, par rapport à la lumière qu'on a, on positionne les gens. C'est ça. Ça aussi, c'est la mise en scène, ça.
Est-ce que vous êtes une manipulatrice, Françoise Huguier ?
Oui. J'adore ça. Mais je vous ai pas manipulée. Hein. Non, mais j'adore ça, manipuler. On me le dit à chaque fois que je manipule les gens. Mais j'essaye de le faire avec finesse, quoi. C'est tout à fait conscient.
Et vous pensez que vous obtenez plus de choses en manipulant les gens ?
Pas tout le temps, mais parfois, oui.
Ça vous est arrivé de oui ?
Oui, tout à fait. Mais il y a une manière de dire les choses. Moi, j'ai un peu d'humour. Il y a une manière de...
Beaucoup, on le voit aussi dans les livres.
Oui, j'ai une manière de parler aux gens. Moi, je vois dans la rue, par exemple, dans ma rue, il y a des gens qui passent. Il y a un vieux monsieur, d'ailleurs, qui est là, très fatigué et tout, qui va faire les courses, là, au marché. Et à chaque fois, il passe et il s'assoit juste à côté de la maison. Je lui dis, vous voulez que je vous aide et tout ? Alors, évidemment, il veut pas, parce qu'il veut pas, parce qu'il dit, je suis capable de porter mon caddie. Et puis tout d'un coup, je m'assois à côté de lui et puis on commence à parler. Il me raconte sa vie au bout d'un certain temps. Moi, je dis que je suis photographe, hein, tout de suite. Hein. Et donc, il me raconte...
Vous avez toujours un appareil photo avec vous, par exemple
ou... Oui, dans mon sac, oui. Mais un petit, là. Hein. Toujours. C'est un principe. Il m'a dit, vous savez, ma femme, elle est morte pendant le Covid et tout. Donc, il m'a tout raconté, quoi. Donc, on a toute une discussion, justement, sur le Covid, où il vient, etc. Il vient d'Algérie, hein. Il y en a un autre au bout de ma rue aussi qui est complètement tatoué. Moi, je suis une dingue du tatouage. Hein. Donc, il était complètement tatoué, même le visage et tout, le cou et tout. Ben, j'étais avec Maxime, mon assistant, Et je l'ai arrêté et je lui ai dit, oh là là, il est magnifique. Il faut faire des compliments aux gens aussi. Il est magnifique votre tatouage, mais c'est quoi et tout. Alors il m'a expliqué et je lui ai dit, mais est-ce que ce serait possible un jour de venir vous prendre? Oui, il n'y a aucun problème. Et puis il me raconte son histoire de tatouage. Donc je suis en admiration devant son tatouage. L'autre jour aussi, j'ai pour le salon de la photo, il y a un camion qui est venu chercher mes photos. Et puis le garçon, un très beau garçon, parce que je regarde quand même les beaux garçons, hein, et un très beau garçon qui avait un t-shirt et il y avait quelque chose qui dépassait. Je me suis douté que c'était le tatouage. Donc j'ai dit, mais vous avez un tatouage et tout. Il m'a dit oui, oui et tout. Ben, j'ai réussi à le prendre en photo.
Vous avez fini par lui faire enlever son t-shirt.
Et dans les usines que j'ai fait chez Redneck là en Allemagne.
En Allemagne, des tunneliers.
Pour le tunnelier, voilà, beaucoup sont tatoués.
Encore des usines, vous aimez ça, hein.
Oui, c'est ça. Et beaucoup sont tatoués, c'est pareil, hein. Souvent, je leur disais, mais j'aimerais bien prendre en photo votre tatouage et tout.
Est-ce qu'il y a des situations où vous n'avez pas pris de photo, Françoise Huguier?
Oui, alors il y a une situation qui m'est restée dans la tête. C'est le journal actuel. Bon, évidemment, vous connaissez, mais il y a beaucoup de gens qui ont oublié que c'était un journal formidable. Ils m'ont envoyé à Hyderabad pour faire le deuil-sheet. Alors le deuil-sheet, c'est dans la rue, ils se fouettent avec des lames de rasoir. J'ai même le sac avec le sang encore. Donc j'ai pris ça en photo, ça encore, ça allait. Et puis tout d'un coup, il y a un monsieur qui est venu vers moi et qui avait une corbeille en osier, et à l'intérieur, il y avait deux fœtus en sang. Il m'a dit, prends en photo, parce que c'est porte-bonheur et tout. J'ai pas pu. Et alors, en fait, c'est les fœtus qui sont nés le jour du Daïchit, il m'a expliqué ça, c'est porte-bonheur. Et j'ai pas pu la faire. Et quand je suis revenu à Actuel, j'ai raconté ça, mais t'aurais dû la faire, j'ai pas pu. Franchement, c'est une des photos que j'ai pas pu faire. J'ai pas pu faire.
Votre travail a toujours oscillé entre la société et les curiosités. On le rappelait notamment avec le magazine Sentidée au début des années 80, entre les portraits d'une femme qui vit dans une cave de HLM à Poissy dans les années 80, des marionnettes en dentelle de cuir pour les cérémonies à Bali. On voit bien l'éclectisme de vos images, Françoise Huguier. En 2020, vous étiez à l'honneur au musée du Quai Branly à Paris, avec les curiosités du monde de Françoise Huguier. C'était une exposition conçue comme un carnet de voyage et qui présentait une sélection d'objets, je dis bien une sélection, on avait déjà beaucoup, hein, mais d'objets insolites, quotidiens dans les pays où vous étiez allé, puisque vous les aviez glanés dans le monde entier. Ça a donné d'ailleurs lieu à un livre intitulé « La Curieuse », publié aux éditions Filigrane. On est dans votre maison, qui est aussi votre atelier, qui est aussi un endroit où vous entreposez les photos, les tirages qui reviennent des expositions, les archives, enfin il y a tout. Et il y a des centaines d'objets. J'aimerais bien, si vous le voulez bien, qu'on prenne un tout petit peu de temps pour que vous nous en présentiez certains, parce que c'est un véritable bazar, c'est vous qui l'appelez comme ça.
C'est le bazar Zoulou. Hein.
Le bazar Zoulou, vous dites, même si ça n'est pas que Zoulou, puisque ça vient vraiment du monde entier. Mais il y a des centaines d'objets. Si votre œil pouvait s'arrêter sur quelques-uns et nous les décrire ici pour les avoir nus, ben ce serait formidable. Vous voulez bien qu'on fasse une petite
tout à
visite
fait. Tout
qu'on
à
se
fait.
Lève
Tout à fait, il n'y a aucun problème.
Alors, on va vous équiper d'un micro, et puis on va se promener. Alors on est dans une pièce, on va pas faire toute la maison, elle est grande.
Oui.
Mais on est dans une pièce, rien que dans cette pièce, il y a déjà de quoi faire.
Tout à fait.
Allez, venez. On ne sait plus très bien où donner de la tête, alors c'est vous qui nous guidez, hein.
Oui, 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 oui. Alors, vous voyez les deux petits marins, là, soviétiques.
Oui, en porcelaine.
En porcelaine. Alors ça, il y avait une fabrique de porcelaine très connue, le Lomonossov, qui existe toujours à Saint-Pétersbourg, qui est absolument extraordinaire. Donc ça, c'était Opus, parce qu'à un moment, ils vendaient tout. Donc je les ai achetés Opus, et je les adore, ces deux petits marins quoi, de l'époque soviétique.
À côté, il y a un prix, hein. Vous avez, c'est pas une médaille, hein. C'est carrément une.
C'est un prix, oui. Alors, ça veut dire Yélé, c'est la musique. C'est parce que, comme j'ai créé la Biennale de Bamako, donc une année, ils m'ont donné un prix. Ça, c'est le signe en bambara de l'écriture bambara qui veut dire la lumière. Yélé.
Voilà. Qui est d'ailleurs le titre d'un film que vous aimez beaucoup, de Souleymane Cissé.
Exactement. Ah oui, alors la Sainte Vierge qui est là à côté des deux coiffes Bigouden, puisque je suis Bigouden. Et alors, c'est une Sainte Vierge qui appartenait à ma tante. Et ma tante me disait toujours, la sœur de ma mère, elle me disait toujours qu'elle habitait dans un château près de Nantes, tant qu'à faire. Et elle me disait, tu vois la Vierge, là, elle est verte. Ah bon ? Ben oui, je vois, elle est verte. Eh bien, s'il va y avoir un orage ce soir, ben, il y avait un orage. Mais là, elle est là, et quand il y a des orages, elle n'est pas verte. Je n'ai pas les mêmes qualités que ma tante. Hein.
Il y a au mur aussi, mais non, ce n'est pas au mur que vous nous emmenez. Vous continuez de nous emmener dans les étagères.
Dans les étagères, voilà. Et, ah oui, alors là, il y a un petit cyclopousse. Vous voyez ce que c'est qu'un cyclopousse qu'on trouve... À Jakarta, il n'y en a plus, mais on en trouve aussi encore à Bangkok. Et là, il y a un robot, parce que...
Vous êtes fan de robots.
Fan de robots,
oui. Beaucoup de robots.
Beaucoup de robots. Et là, c'est un robot diable, parce que j'aime beaucoup le diable. Oui, je suis une amoureuse du diable. Il ne faut pas le dire. Hein.
Non, surtout, il ne faut pas le dire.
Surtout pas. Et là, j'ai des petits robots qui sont en métal, japonais, qui sont très, très vieux. Parce que maintenant, ils sont souvent en plastique. Hein. Voilà, et puis... Il y a des petites voitures. Là, il y a une petite voiture qui était la voiture officielle soviétique. Donc, j'ai récolté ça aussi. Et puis, il y a Pushkin. Il y a la statue de Pushkin là, qui est là.
Et il y a comme un 33 tours du Super Biton aussi, ça, hein,
oui,
de Sego.
Super Biton de Sego, oui, oui, oui. Et ça, ça a été enregistré. Après, je les ai suivis en Allemagne de l'Ouest et de l'Est. Donc, j'ai fait toutes les photos. Et quand ils sont rentrés à Paris, ils ont enregistré ce disque. Donc, je l'ai gardé parce que c'est un souvenir aussi. Voilà.
Et alors, vous disiez que vous n'aimiez pas exposer des photos de vous. Chez vous, il y en a quand même quelques-unes. Hein. On a vu le pêcheur de Bozo, la jeune femme au dos nu qui fait la couverture de Secrète, par exemple.
C'est un accident.
Oui, c'est un accident, c'est ça. Et puis, il y a une photo de Mama Sissoko aussi.
Oui, ben le guitariste virtuose de l'Afrique de l'Ouest, qui est...
Caché derrière un gros robot encore. Hein.
Oui, caché derrière un gros robot... Et puis ça, c'est sa guitare sur un tapis.
Qui est une photographie que vous avez faite
exactement.
Vous voyez, il y en a beaucoup.
Oui, il y en a beaucoup.
Et puis là, je vois une photographie de Simone de Beauvoir.
Effectivement, je l'avais vue dans une vitrine. Donc j'ai demandé si je pouvais la voir. C'est le fils de son amie quand elle était à New York et qui a fait la photo. Et qui, il me l'a envoyée, donc je lui ai renvoyé une autre photo. Et puis, il y a les photos aussi de l'enterrement de Simone. Et en fait, moi, j'étais avec mes amis... Cathy Bernheim et mes amies des féministes de l'époque, elles allaient, parce qu'elles écrivaient avec, pour les temps modernes. Simone de Beauvoir s'en occupait, donc on allait chez elles et jamais osé faire une photo, je sais pas pourquoi. Ben voilà, c'est comme, c'est pas que j'ai pas osé, ça m'est sorti de la tête. C'est terrible.
Vous n'y avez pas pensé, vous voulez
dire? J'ai pas pensé. C'est pas parce que j'ai pas osé, j'ai pas pensé.
Vous regrettez?
Oh ben oui, quand même. J'aurais bien aimé avoir fait une photo de Simone de Beauvoir, quand même. Oui. Mais je les voyais souvent avec Sartre à la coupole. Hein. Parce que quand j'étais plus jeune, comme j'étais à l'école alsacienne, après les couvents des oiseaux, j'allais en douce à la coupole. Et je les voyais souvent à la coupole.
Ça nous ramène quelques années en arrière, François Huguier. Mais justement, comme d'une certaine façon, vous avez aussi connu 50 ans de l'histoire de la photographie. Comment regardez-vous l'évolution de la photographie? Avec bonheur, avec curiosité, là encore, avec inquiétude?
Non, curiosité, inquiétude, parce que le documentaire... Moi, j'ai vécu de documentaire.
C'est votre veine, hein?
C'est ma veine et ma chance. Et donc, parce que pour les journaux, que ce soit pour les journaux féminins, je faisais des documentaires. Ça a commencé par Santidé, après Marie-Claire. Après, ça a été Géo et puis j'en ai fait pour les livres, évidemment. Mais maintenant, moi, quand je regarde les magazines, c'est plus du tout la même chose. Il y a très peu de documentaires. Très, très peu.
En même temps que la photographie a pris de plus en plus de place dans nos vies, évidemment, avec nos smartphones,
pour les jeunes photographes,
elle s'est amenuisée dans les journaux.
Oui, tout à fait. Mais parce que les gens n'achètent plus les journaux aussi. Hein. Alors, Libé, ça continue, hein. Il y a des photographes. Moi, j'ai un ancien assistant qui travaille pour Libération. Mais,
il y a des revues aussi, quand même.
Il y a des revues, mais maintenant, pour payer les portfolios, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent, quoi. D'abord parce que les gens achètent de moins en moins les journaux, donc du coup, ben, c'est les pubs qui font venir comme avant les journaux. Mais là, s'il n'y a pas de pub, il n'y aura plus de journaux.
On va se rasseoir pour terminer.
On va se rasseoir.
À moins que vous ayez envie de nous présenter encore objet.
J'ai quelque chose à vous montrer. Alors ça, c'est très impressionnant parce que bon, c'est un costume. Un costume avec une cravate, une chemise, magnifique. Tout ça, c'est en papier. Moi, j'ai connu ça à Singapour et à Kuala Lumpur, chez les Chinois. C'est les taoïstes qui, au moment de la mort, au cimetière, on leur offre soit une Mercedes, soit un costume. Et moi, j'avais ramené, avec mon mari, on a ramené une maison en bambou énorme, qui est la moitié de la pièce, ici, en bambou et en papier, avec la cuisine, tout, les personnages et tout. Et après, au cimetière, ils brûlent tout pour que les gens aient ça au paradis. On aimerait bien voir ça aussi.
Alors là, il faut dire quand même que ce costume, il est plié et il est emballé dans une boîte, comme un déguisement, en fait.
Comme un déguisement, exactement. Il y a eu une très belle exposition là-dessus, parce qu'ils font ça à Taïwan aussi. Il y a eu une très belle exposition au Quai Branly, là, justement, sur ça. Que peu de gens connaissent, quoi. Et c'est en train de se raréfier quand même. La dernière fois que j'étais à Singapour et à Kuala Lumpur, c'est en train de se raréfier quand même. Mais par contre, j'étais à un enterrement d'un jeune ami, celui qui m'a aidé pour les K-pop à Kuala Lumpur. Et il a perdu son grand-père. Il y a eu l'enterrement et là, ils ont brûlé un énorme théâtre en bambou et en papier, théâtre chinois. C'était magnifique.
Qu'est-ce qu'il y a à nos pieds, là, un tableau posé par terre ?
C'est un tableau qui vient de Norisk, c'est un peintre de Norisk, et c'est un tracteur. Moi, j'aime beaucoup ce tableau qui me fait penser, effectivement, à la période soviétique, quoi, de la construction de l'Union soviétique. Et puis les couleurs aussi, très très pâles aussi. Les couleurs très pastelles aussi. Mais j'aime bien le pastel.
Il y a beaucoup de livres d'Arles, hein, des rencontres de photos d'Arles. Vous êtes une assidue, une fidèle des rencontres d'Arles.
Ils me demandent de faire des workshops aussi. Et puis c'est très intéressant, quoi, parce qu'on voit l'évolution un peu de la photo. Et puis il y a des gens que je connais pas du tout que je vois en photo, quoi. C'est bien. C'est comme Perpignan aussi. Perpignan, c'est surtout le documentaire. Donc c'est très intéressant, très très intéressant. Et notamment de parler avec les photographes.
Vous y étiez, hein, à Perpignan, oui, en septembre 2022, fin août, début septembre 2022, exposé. C'est le reportage, c'est photographique.
Oui, il y avait, je crois que 50 photos, je ne sais plus, ou 60. C'était un peu toutes les photos de ma vie, quoi. Enfin, pas toute ma vie. Hein.
Ah non, et puis pas toutes les photos, parce que justement, dans cette maison, sont entreposées toute une partie. Là, toute votre vie est là.
Et puis les négatifs, parfois je retrouve des négatifs. Ça me fait penser à des photos que j'ai faites que je n'ai pas ressorties du tout et qu'il faudrait que je ressorte, quoi.
Parfois vous en découvrez ?
Oui, tout à fait.
J'avais oublié, j'ai pris ça aussi.
Oui, et puis j'ai envie de faire une monographie de tout le travail que j'ai fait en Afrique. Et là, justement, je suis en train de rechercher partout. Et par chance, j'ai toutes les planches contact. J'ai une banque de données. Et donc, je sais retrouver la planche contact, les photos, et puis après, le négatif, évidemment. Tout est rangé.
Tout est rangé, tout est archivé. Mmh. Tout est numérisé ou pas ?
Non, c'est impossible. J'ai des planches contact qui datent des années 75, vous imaginez, jusqu'à maintenant. C'est impossible de tout numériser. Mais petit à petit, je le fais, oui. Petit à petit.
Françoise Huguier, vous êtes une insatiable. Vous avez toujours plusieurs projets en cours, des envies, des désirs. C'est l'insatiable curieuse, hein, on y revient toujours. Malgré tout, le temps passe, les années filent. Vous avez 80 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui va advenir de tout ça ? Vous y pensez dans les temps lointains, on espère, mais bon.
Les archives... on va voir, parce que je dois rencontrer une personne, là, parce que il y a un endroit où, Moi, je vois les amis de Magnum, ils commencent à donner leurs archives, mais moi, j'ai pas envie de les donner maintenant. Je suis pas encore morte. Hein. Et puis, les objets, Maxime, mon assistant, il dit, bon, il faut faire un musée et tout. Bon, d'accord, ok. J'ose pas trop y penser. Enfin, j'y pense.
Pas encore.
Bon, non, mais j'y pense, hein, mais me débarrasse des choses. Hein. Et puis, je donne des choses, oui. Mais bon. Je pense pas trop.
Il y a plein d'autres choses à faire en attendant.
Oui, en attendant, il y a plein d'autres choses à faire. Donc là, bientôt, je vais descendre dans un tunnelier, là. J'ai un peu peur, hein, mais il paraît... J'ai vu les photos, c'est magnifique. Hein. Je descends sous terre, oui.
Tunnelier, c'est ceux qui font les métros,
ceux
hein.
Qui font les métros, oui.
Du monde entier, d'ailleurs, là, dans cette usine.
Oui,
avez...
cette usine, oui. Mais là, c'est à Paris. Là, je vais dans un tunnelier qui fait les tunnels pour le métro, le grand métro. Et donc, j'appréhende un peu, quoi. Mais en faisant les photos, on apprend toujours. Hein. Parce qu'on ne sait pas. Moi, j'ai vu des photos, mais ce n'est pas la même chose quand on est sur place. On appréhende toujours. Hein. On verra bien. Il paraît que ça secoue. On verra bien.
C'est quoi une belle photo? Une photo réussie?
La vôtre.
Une photo réussie.
Oui, parce que belle photo, moi, je trouve
que
c'est
oui,
pas...
Ça ne vous voit pas, belle photo. Ouais, alors, c'est quoi une photo réussie?
C'est pas forcément la photo que tout le monde aime. Hein. Une photo réussie, c'est une photo où d'abord, où sur place, on a eu, ben, où j'ai eu, où j'ai tout oublié, sauf de faire la photo. C'est peut-être ça une photo réussie, puis c'est surtout le cadrage et la lumière, quoi. Donc j'essaye des choses, quoi. Parce que moi j'essaye encore, comme vous dites, j'ai 80 ans, mais j'essaye encore des choses.
Vous faites encore votre film?
Oui, je fais encore mon film.
Il est loin d'être fini. Merci beaucoup, Françoise Huguier.
Merci, Caroline. Vous avez une jolie chemise. Hein.
Merci.
Je l'ai vue au début. Hein.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Andreas Jaffré, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.